Gloire à Dieu. Il est bon de passer ses temps, de se ressourcer dans la présence du Seigneur. Amen. Nous avons tout en lui. On l'a chanté, il a plusieurs noms. Enfin, ce serait trop long d'expliquer tout ce qu'il a. Il est pleinement celui qui peut nous combler. Amen. Et ce matin, j'aimerais continuer de vous encourager à vous approcher au plus près de lui, au plus près de Dieu. Épisode 4, si vous avez loupé les trois autres, sont disponibles sur le site internet, dans l'onglet prédication. Donc on va introduire ces moments juste en rappelant certains principes qu'on a vus. Et le premier qui est très important qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, versets 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Puis ensuite, nous sommes encouragés à nous approcher du trône. Et j'ai voulu resignaler cette libre entrée dans le sanctuaire qui a été ouverte. On avait vu dans la première étude tout le parcours qu'il fallait faire dans le tabernacle ou dans le temple pour s'approcher de Dieu. Et aujourd'hui, on avait conclu dans cette étude qu'il n'y a plus qu'un seul lieu dans le temple, c'est le lieu très saint. On peut encore s'égarer dans les parvis, on peut s'égarer même dans le lieu saint, mais le seul lieu qui importe Dieu, c'est le lieu très saint, c'est le lieu où on est dans l'intimité au plus proche de lui. Et on a commencé à sonder quels sont les bienfaits qui résultent du fait de se tenir auprès de Dieu. Le premier, on l'a vu au travers du texte de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, qui dit ceci: Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Hein, cette proximité avec Dieu nous transforme, nous métamorphose. Et puis on avait fait ensuite la comparaison entre Marthe et Marie. L'attitude, ce texte que ceux qui lisent la Bible connaissent très bien, où l'une était très occupée et l'autre a pris le temps de se tenir aux pieds de Jésus. Et juste retenir ce qu'a dit Jésus à ce moment-là dans Luc chapitre 10, verset 42. Il a dit: Une seule chose est nécessaire. Amen. Une seule chose est nécessaire. C'est-à-dire quoi? Se tenir au plus près de moi. C'est la seule chose qui est nécessaire. On perd beaucoup de temps à vouloir faire toutes sortes de choses pour être des bons chrétiens. Et enfin, pour ma part, en tous les cas, j'échoue lamentablement à être un bon chrétien. Mais lorsque je suis proche de Dieu, alors je peux lui ressembler et changer et être à son image. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais vous aller plus loin. Au travers d'une autre exhortation de Jésus, ce que l'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, et on va lire ensemble ce passage. Jean 15, verset 1, et on va lire jusqu'au verset 11. Je suis le vrai cep, c'est Jésus qui parle, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Jésus parle à ses disciples à ce moment-là. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et j'ai cru qu'il y aurait des amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Une fois encore, au travers d'une parabole, cette fois-ci, Jésus nous rappelle que si nous venons au plus près de lui, nous avons choisi la bonne part. Cette union, elle est tellement visible lorsqu'on regarde une vigne et particulièrement un cep. D'ailleurs, on dit le cep et les sarments et on pense que le cep est d'un côté et les sarments de l'autre. Mais en fait, quand on dit le cep, ça comprend les sarments. Vous comprenez ça ? Hein, souvent, quand on lit cette parabole, on dit il y a deux choses différentes. Non, non. Le cep, ça comprend les sarments. D'accord ? Et il y a là un symbole d'unité. Cette union, elle est réclamée par Jésus, par le Père, bien sûr, et Jésus est venu l'annoncer aux hommes. Si vous lisez, je n'ai pas le temps de le faire. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc j'essaye de scinder. Mais lisez le chapitre 14 qui présente notamment les versets 18 à 25 et vous verrez que Jésus parle déjà de cette unité. Reportez-vous au chapitre 13 avec ce fameux récit de la scène qui est prise avant la crucifixion où Jésus va se baisser pour laver les pieds de ses disciples, un moment d'unité extraordinaire. Et puis la suite aussi, chapitre 16, chapitre 17, où le Seigneur fait cette prière pour ses disciples, à son Père, et il dit qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. On va voir que un autre intérêt de vivre au plus près de Dieu ce matin, c'est de porter du fruit à la gloire de Dieu. On pourrait intituler ce message « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est pour ça que j'attendais un amen tout à l'heure. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Vous êtes d'accord avec ça ? Attention, parce que tous ceux qui n'ont pas dit amen, ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose sans Dieu. Et en sous-titre, je mettrai « Distinguer le vrai du faux ». Parce que ce qui m'a frappé en regardant ce texte, c'est que on dit souvent la parabole du cep et des sarments. Vous avez remarqué, hein ? Mais lisez le texte et ce n'est pas la parabole du cep et des sarments. C'est la parabole du vrai cep et des sarments. D'accord ? Ce qui n'est pas pareil. J'aimerais voir avec vous ce qu'est le vrai cep. Vous savez que c'est Jésus. Mais pourquoi il est précisé le vrai cep ? Jésus, c'est le Messie annoncé. C'est un cep, quand vous prenez l'image d'un cep, franchement, quand vous regardez un cep, surtout en hiver, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Pas le plus formidable des arbres. On aurait pu prendre le cèdre du Liban pour parler de Jésus, non ? Vous ne croyez pas ? Mais en fait, le prophète Ésaïe annonce ceci dans Ésaïe 53. Vous le connaissez, ce texte. Hein, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Mais si le cep n'est pas terrible à regarder, est-ce que le fruit n'en est pas excellent ? Oh là là, d'accord. Vous n'aimez pas le raisin, vous n'aimez pas le vin ? D'accord, bon, j'aurais dû prêcher ailleurs alors. Le fruit est extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de faire les vendanges une fois dans ma vie. Ah, c'est top, hein ? De boire à la cuve directement, c'est un truc de fou. D'ailleurs, bon, je vais vous passer les commentaires. Les commentateurs sont quasi unanimes pour dire que le cep où la vigne, dans la parole, représente Israël. Or, pourquoi il est dit le vrai cep ? Parce que Israël, qui était la vigne, le cep, certaines traductions d'ailleurs, dans certaines traductions, et beaucoup de traductions, vous verrez que ce n'est pas le cep et les sarments, c'est la vigne et les sarments. Cette image de la vigne, c'est Israël. Et le problème d'Israël, c'est qu'il a, il y avait une vocation, une élection et une vocation, et que Israël est passé à côté. Dans Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 2, il est dit « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, il y mit un plant délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. » C'est l'histoire d'Israël. Et personnellement, je pense qu'au travers de cet échec d'Israël, qui donc est le faux cep, en comparaison avec le vrai cep Jésus-Christ, eh bien nous devons tirer leçon de cet enseignement, parce que nous avons aussi une élection, une vocation, et le but est de ne pas passer à côté. Et la difficulté, en fait, c'est de s'attacher uniquement au vrai cep. La problématique d'Israël, c'est qu'ils n'ont pas su s'attacher uniquement à Dieu. Ils se sont attachés à d'autres ceps. Le cep de l'idolâtrie, première chose. C'est quelque chose qui revient énormément quand vous lisez les prophéties de l'Ancien Testament. La problématique numéro un du peuple d'Israël était l'idolâtrie. Ésaïe chapitre 2, verset 8. Le pays est rempli d'idoles, ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Voilà, c'est ce qui est dit avant, lisez les premiers chapitres d'Ésaïe, avant qu'il y ait ce texte de Ésaïe 5 qu'on a lu sur la vigne, il est décrit toute la problématique d'Israël. Quelles sont les idoles aujourd'hui ? La première idole, regardez ce qu'il est dit, les idoles qui se sont fabriquées, l'ouvrage de leurs mains. La première idole, c'est moi. C'est moi. Et je reviens sur le titre du message. Sans moi, c'est Dieu qui parle, hein, c'est pas le pasteur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Or, le moi vient souvent se mettre en concurrence avec le moi de Jésus. C'est la première idole. La deuxième idole, c'est toutes les idoles des temps modernes. Tout ce sur quoi on peut s'appuyer dans notre société occidentale, et qui nous empêche de dépendre uniquement de Dieu. Souvent, on fait la comparaison, ceux qui sont allés à l'étranger, quand on lit les récits missionnaires, quand on reçoit les missionnaires qui vont prêcher dans des endroits où il n'y a rien. Les gens n'ont rien. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas l'eau courante, ils n'appuient pas sur un bouton pour avoir de la lumière. Il n'y a rien. Et eux, là-bas, les chrétiens, ils dépendent du cep. Ils n'ont pas de choses pour brouiller. Nous, nous avons tellement de choses à notre disposition que tellement de fois, nous utilisons tout ce qui est à disposition dans notre société occidentale et on oublie de s'appuyer sur le cep. Donc, c'est valable pour chacun de nous individuellement, c'est valable pour l'Église. Et nous devons éveiller constamment. Amen. Attention dans vos vies, je le dis, je l'ai déjà dit, vous le savez, une idole c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Donc ça peut être tout, ça peut être même des choses très bien, ça peut être la famille, ça peut être son conjoint, ça peut être ses enfants, ça peut être son travail. Est-ce que tout ça c'est des mauvaises choses ? Non. Ça peut être aussi, malheureusement, toutes ces choses qui sont venues dans notre siècle, les nouvelles technologies, votre petit truc rectangulaire là, que vous trimballez partout. Hein ? Ça, c'est une idole. C'est l'idole des temps modernes. Une idole en ce qu'elle vous prend énormément de votre temps et dans tout ce qu'elle vous prend, ben, c'est autant qui n'est pas donné à Dieu. Et c'est un défi pour les chrétiens du XXIe siècle, et je parle, prier vraiment pour notre jeunesse, pour ces générations qui viennent et qui sont faites avec ça. Maintenant, c'est le vous savez ce que ça veut dire, les anciens scrollés? Ouais. Vous êtes sur le téléphone et vous faites défiler des images. Donc, il y a des applications pour ça, Snapchat, TikTok, etc. Pas plus tard que la semaine dernière, on avait les ados. Et en attendant que la répétition commence, je suis passé derrière une adolescente et qui était là avec son téléphone. Mais alors, c'est impressionnant parce qu'elle ne regarde même pas la vidéo en entier. Hein. C'est comme ça. Et on voit des trucs. Mais elle y passerait, je pense qu'elle peut y passer 3 heures à faire défiler tous ces trucs-là. Et en fait, bon, nonobstant le fait que dans tout ça, elles peuvent regarder des choses qui ne sont pas convenables, mais même si on ne regarde pas des mauvaises choses. Parce que souvent, on met l'emphase sur « Ah, les portables, c'est pas bien, il ne faut pas les laisser aux enfants, machin, parce qu'ils peuvent voir des trucs. » Non, mais le pire, c'est pas ça. Hein. Le pire, c'est le temps qu'on y passe. C'est ça. Bon, je ferme la parenthèse. C'est pas là-dessus que je veux prêcher. Pardon. Deuxième cèpe auquel Israël s'est attaché, c'est la tradition. Matthieu chapitre 15, versets 7 à 9. C'est Jésus lui-même qui va citer Ésaïe. Ésaïe qui parlait de cette problématique. Jésus nous renvoie à cette problématique. Il dit « Hypocrite, Ésaïe, il s'adresse aux pharisiens. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Et on a eu l'occasion d'en parler, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais rappelez-vous, dans la première étude, le lieu saint. Le lieu saint, c'est un endroit extraordinaire hein, dans le temple. Il y a le chandelier, il y a les pains qui représentent la parole, il y a l'autel de où on met l'encens, l'autel des parfums, la prière, la louange. Waouh, on a tout ça. Super. Mais Dieu lui dit non. C'est pas à ça que tu dois t'attacher. Franchis, va dans le lieu très saint. Parce que quand on reste dans le lieu saint, on est attaché à tout ça, à nos rituels. Vous savez que la louange, ça peut devenir une idole ? Oui. Il y a des fois, la louange, ça devient tellement important pour les gens que c'est plus important que Dieu. Puis ils viennent à un culte, il n'y a pas de louange, ils disent « C'est quoi ce culte ?» Ou s'ils tombent dans une église, vous savez, les églises en milieu rural, en campagne, où j'ai beaucoup d'admiration pour les pasteurs qui sont là, où il n'y a que quelques personnes, il n'y a pas de musiciens, il n'y a rien. Et moi, j'ai connu, hein, quand j'ai mon premier poste, il y avait une église où le frère, il était content que j'arrive, que je joue du piano, parce que jusque-là, eh ben, il faisait chanter a cappella. Et là, si votre idole, c'est la louange, vous avez tout faux, hein. Vous n'allez pas rester dans cette église. Vous allez dans une église où il y a un super groupe avec de la musique, tout ça. Et aujourd'hui, c'est ça, les critères de choix. Le rituel même, voilà, tout ce qu'on a établi, on en parlait la dernière fois avec Nathanaël et des responsables, tout ce qu'on a établi, dans ce qu'on fait, la manière dont on fait le culte ce matin, on pourrait faire complètement différemment. Commencer par les chants, la prédication. Déjà, on a bouleversé l'ordre, excusez-nous. Hein. On a fait la prédication avant la Sainte-Cène. Mais est-ce qu'on a le droit ? Mais oui, mais tout ça, c'est des commandements d'hommes. Donc, il n'y a pas de problème. On est obligé de s'organiser, de prévoir. Mais il ne faut pas qu'on y soit attaché. Il ne faut pas que ça devienne la première chose. Ça pourrait empêcher l'Esprit de Dieu d'agir au milieu de nous en disant « Non, là, on a prévu tant de chants. Non, c'est la prédication. » On pourrait, à un moment donné, au milieu des chants, le prédicateur pourrait dire « c'est maintenant qu'il faut que je prêche. » Moi, ça m'est arrivé des fois. Je ressentais l'Esprit me disait « C'est maintenant là qu'il faut que tu parles. » Mais il faut être capable de le faire, oui ou non ? Amen. Troisième cèpe auquel Israël s'est attaché, c'est le cèpe des compromis. Ça, c'est l'histoire d'Israël est ainsi. Vous savez que Dieu fait des promesses, et notre problème, c'est que elles ne s'accomplissent pas au moment où Dieu les donne. Elles ne s'accomplissent pas au moment où on prie, on dit « Seigneur, je veux ». Et quand ça dure un peu trop longtemps, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on donne un coup de main à Dieu, parce qu'il n'y arrive pas. Eh oui, alors, ah, le Seigneur, il n'y arrive pas, il va falloir que je fasse quelque chose. Et c'est l'histoire d'Israël, c'est ça a commencé avec Abraham hein, et Sarah. Pas loin de moi l'idée de les juger, j'aurais certainement fait pareil. Trouver des, ah, la promesse de cet enfant n'arrivant pas, eh bien, ils ont donné un coup de main à Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin de notre coup de main parce que vous avez vu le résultat, hein, ce n'était pas terrible. On en paye les conséquences aujourd'hui encore. Regardez ce qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 2, versets 6 à 7. Tu as abandonné ton peuple, il est parlé de Dieu, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, a donné à la magie comme les Philistins, parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'argent, d'or, il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, il y a des chars sans nombre. Ce texte, il est. J'aurais pu faire la prédication juste sur ce texte. L'Orient, ça représente l'influence du monde. Tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. La magie, c'est tout ce qui est l'occultisme. Quelqu'un a prié ce matin en disant c'est pas pour être guéri, c'est pas les guérisseurs qu'on va voir. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui vont en même temps voir les guérisseurs, les médiums, etc. Les alliances ont fait beaucoup de mal à Israël, et notamment les alliances avec les pays idolâtres. Dans le texte, il est dit avec l'étranger, mais le Dieu n'est pas raciste. Hein. Quand il disait à son peuple de ne pas s'allier avec l'étranger, ce n'était pas parce qu'il était opposé à s'allier avec une race différente. C'est que l'étranger, à l'époque, l'étranger, c'était forcément quelqu'un qui adorait d'autres dieux. Et donc Dieu savait que si ces étrangers s'introduisaient, malheureusement, la contamination n'irait pas dans le sens de convertir les étrangers au judaïsme à l'époque, mais que ce serait l'inverse. Et on voit dans toute l'histoire du peuple d'Israël que des autels ont été bâtis à d'autres dieux, pendant qu'en même temps, le peuple allait au temple. C'est ça qui est très fort chez l'homme. Il est capable de faire des compromis, en même temps d'être chrétien, en même temps de faire autre chose. Mais Dieu est exclusif. Dieu est exclusif. Alors, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, on a le droit de ne pas être d'accord, et comment ça? Mais c'est comme ça. Donc, soit on se soumet à Dieu, soit on veut garder son propre arbitre, et on fait ce qu'on a envie, on fait des mélanges, on a le droit. Mais c'est pas ce que Dieu agrée. C'est pas ainsi qu'on portera du fruit. Et puis la dernière image, les chevaux et les chars, c'est l'image du combat charnel. Israël, alors qu'il avait l'Éternel des armées comme Dieu, vous rappelez qui a utilisé cette expression hein? David devant Goliath. Je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Juste avant, il avait dit à Saül, garde ton armure, garde tes armes. J'en ai pas besoin. Et en fait, nous on dit, oh Dieu, c'est toi ma justice, c'est toi qui me protège, c'est toi qui combats pour moi. Et après, dans notre vie, on est toujours en train de combattre. Parce qu'on se laisse guider par la chair, au lieu de se guider par l'esprit. Et on perd un temps fou sur des combats charnels, alors que pendant ce temps, des âmes se perdent. Et on va passer des heures à régler des choses, à faire des... Alors qu'il y a des choses plus importantes à faire. Le combat charnel. Essayez de... Encore hier, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui n'est pas de cette église, qui est d'une autre église que je connais, et qui a été victime d'une grande injustice. Et donc, il est... Et alors, en même temps qu'il vous envoie le texto, je fais confiance au Seigneur, et en même temps, il est en train d'essayer de faire plein de trucs, et mais il est en train de se détruire le cerveau. Au lieu de dire, je laisse tout ça entre les mains du Seigneur, j'abandonne, je laisse. En résumé, si on pouvait résumer, je dirais que tout ça, c'est le cep de l'orgueil. Si on résume tout ça, on retrouve toujours l'orgueil dans toutes ses places. Ça veut, en résumé, toutes ces choses, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose avec quelqu'un d'autre que Dieu, ou sans Dieu. Or, Jésus dit clairement, et je le répète encore, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Deuxième chose dont j'aimerais parler avec vous, forcément, c'est sarment. Et on va parler aussi, c'est pas écrit comme ça dans le texte, mais on va parler du vrai sarment. Parce que là aussi, on entend parler de deux sortes de sarments. Les vrais et les faux. Je ferai une remarque introductive. Le vigneron seul sait reconnaître les vrais sarments des faux sarments. Allô ? J'ai pas entendu Amen ? Or, c'est qui le vigneron ? C'est Dieu. D'accord ? C'est pas toi, mon frère, ma sœur. C'est pas moi. C'est Dieu qui est le vigneron. Comment le vigneron reconnaît-il les bons sarments et les mauvais sarments ? On va voir quatre points rapidement. Un, des sarments est attaché au cep, l'autre n'est pas attaché au cep. Il paraît l'être, mais il ne l'est pas. En fait, c'est un appel vibrant, on est dans le thème de la prédication, à venir au plus près de Dieu. Vous avez vu combien de fois le terme « demeurer » est utilisé ? Et encore, si vous continuez à lire le chapitre ou vous lisez le chapitre précédent, vous allez voir, le terme est réutilisé. « Demeurer »,« demeurer », »,« habiter en », »,« pénétrer », »,« être en ». Donc ce que Jésus nous dit au travers de cette parabole, c'est qu'il veut vraiment qu'on soit hanté sur lui. Je vous rappelle que c'est, on l'a lu dans l'introduction, c'est par son sacrifice à la croix que nous avons cette liberté, ce libre accès pour être hanté en lui, ce qui n'était pas possible avant. C'est un privilège extraordinaire qu'on a et qu'on n'utilise pas. C'est ça qui est fou. Parce qu'à l'époque, avant que Jésus vienne sur terre, les gens devaient dire « Oh là là, tout ce qu'il faut faire pour s'approcher de Dieu. Oh, brrr. Dieu l'a tout enlevé. » Et pour autant, est-ce qu'on s'approche de lui ? Le seul moyen pour s'approcher de Dieu, c'est le renoncement. Il y a une phrase qui est d'une logique implacable que Jésus prononce. Si on demeure en lui, il demeure en nous. Pas de commentaire, tout est dit. 1 Jean chapitre 5 verset 12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Est-ce que c'est clair ? On peut se laisser se convaincre soi-même qu'on a la vie, alors qu'on n'a pas la vie. Parce que si vous n'êtes pas ancré, hanté en Dieu, vous n'avez pas la vie. Vous faites semblant d'avoir la vie. On peut faire semblant d'être chrétien, hein. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, je ne vise personne, je pense à personne, je vous assure, je suis pas, ne vous sentez pas visé. Des fois, les gens me disent « Ouais, tu m'as regardé quand tu as... » Non, franchement. Je viens de le dire, Dieu, le vigneron, c'est Dieu, c'est pas moi. Celui qui a le fils, a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Deuxième point, le vrai cep est émondé, le faux cep est retranché. En fait, le vigneron, il fait un travail sur la vigne. Il taille. Il taille parce qu'en fait, le tronc, le cep, c'est lui qui donne la sève. Et pour que les sarments tirent le meilleur rendement de cette sève, il ne faut pas qu'il y ait de gaspillage inutile. Il ne faut pas que la sève aille nourrir des sarments qui n'en valent pas la peine. Donc c'est pour ça qu'il va tailler. Et quand il taille, il y a deux solutions. Soit il taille le sarment pour le fortifier, ou soit il le taille complètement, il enlève, le sarment sèche, et ensuite et est jeté au feu. L'émondage, il est fait pour quel sarment ? Le bon, celui qui porte du fruit. C'est paradoxal, hein ? Celui qui porte du fruit, on le taille. L'émondage, c'est l'image de l'épreuve. Que si souvent on refuse, on dit « Non Seigneur, je ne veux pas cette épreuve, je ne veux pas cette épreuve. » Mais parfois, c'est le Seigneur qui la permet pour l'émondage. Et beaucoup d'entre nous pourraient ici lever la main et témoigner en disant « J'ai vécu telle épreuve, mais j'en suis sorti tellement plus fort. » C'est vrai ou c'est pas vrai ? Tellement plus proche de Dieu. Le brisement aussi, c'est une forme d'émondage. Quand on résiste, quand on résiste, quand on résiste, je l'ai vécu personnellement, le Seigneur nous brise. Et une fois qu'on est brisé, eh bien là, dépendance de Dieu, totale. Et des fois, on a besoin, j'ai eu besoin d'être brisé à des moments de ma vie, vraiment brisé. Et je remercie le Seigneur de l'avoir fait. Parce qu'après ce brisement, je n'ai plus été le même. D'ailleurs, plusieurs commentateurs, au travers de ça, parlent de la dimension prophétique de la parabole. Jésus parlerait à Pierre et à Judas. L'un qui a été émondé, Pierre a vécu un vrai brisement, il avait besoin d'être brisé dans son orgueil. Vous n'en avez pas besoin, moi non plus, mais lui, il en avait besoin. Et au travers du reniement, il a été brisé. Mais après, ça n'a plus été le même homme. On a vu un autre Pierre. Alors beaucoup disent c'est parce qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Oui, je suis d'accord, mais je pense que l'épisode de reniement a eu son importance aussi. Par contre, Judas, lui, il a été retranché. Et c'est ainsi. Ne me demandez pas de vous expliquer tout ça. Je ne suis pas le vigneron. Mais certains vont porter plus de fruits. Ça a été le cas de Pierre. Quel fruit il a porté, Pierre ? Extraordinaire, non ? Parce qu'il a été émondé. Dans la version Parole de vie, il nous est dit ceci, « Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillées. » C'est ce verset qu'on connaît plus sous la forme « Vous, vous êtes pur, vous êtes net, parce que vous avez reçu mon enseignement. » Et j'aime bien cette traduction, parce qu'en fait, c'est clair. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillées. C'est une bonne nouvelle par rapport à tout ce que je viens de dire précédemment. Parce que vous allez vous dire, « Ah, c'est ça la vie chrétienne ? Il faut que j'ai des épreuves, il faut que je sois brisé. » Ben non, ce n'est pas obligatoire. Ça l'est quasiment parce qu'on est tous pareils. Mais si jamais on laissait la taille de la parole, de l'enseignement qu'on reçoit, de la part de Dieu, faire son travail, il n'aurait pas besoin de nous mettre à l'épreuve ou de nous briser. Est-ce que vous avez compris ? Ouais ? Donc à chaque fois que tu es brisé ou que tu traverses une épreuve... Alors non, pas quand tu traverses une épreuve. Il y a des tas de raisons pour lesquelles on peut avoir une épreuve. Mais parfois, quand tu traverses une épreuve, ça peut être parce que tu as le caillou un peu dur, comme on dit. Que le Seigneur nous aide. Moi, je prie que le Seigneur il m'aide à obéir. Et pas être obligé de passer par des moments difficiles pour pouvoir finalement plier le genou. Notre différence, un porte du fruit et l'autre sèche. Le but, je l'ai dit, le but de cette parabole, c'est de nous amener au témoignage. À porter du fruit. Alors attention, porter du fruit dans nos milieux évangéliques, hein, c'est combien tu as amené d'âmes au Seigneur ? Et si jamais tu n'en as pas amené, tu n'as pas porté de fruits. Dégage. Non, porter du fruit, c'est ce qui s'émane de ma personne. Qu'est-ce qui s'émane de ma personne ? C'est ça, porter du fruit. Et après, de ce témoignage de ma personne, peut naître des conversions ou autres. Mais moi, je ne recherche pas les conversions. Je recherche à être un témoin, une lumière dans ce monde. J'essaye. Bien imparfaitement, mais on essaye. Et le Seigneur voit nos cœurs. Est-ce qu'on est en train de vivre pour ça? Et même si parfois on est imparfait, il nous aide et il nous donne d'aller plus loin. Ou est-ce que ce n'est pas notre préoccupation de porter cette lumière? Il est d'ailleurs dit, il ne faut pas seulement porter du fruit, mais il faut en porter beaucoup. C'est pour ça que d'ailleurs le vigneron taille. Si un sarment a donné du fruit, il va tailler et il va en donner encore plus. Amen. Donc on doit dire, Seigneur, vas-y, taille. Il n'y a pas de souci. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Et ce verset s'adresse à toi. Parce que quand on le prononce, vous pouvez être en train de penser, ah ben dis donc, lui, ce serait bien qu'il vive le fruit de l'esprit. C'est l'être humain. Hein. Il pense tout de suite à quelqu'un d'autre. Et le diable est très fort parce qu'il vous a concentré sur quelqu'un d'autre au lieu que vous vous occupiez de vous. Et moi, je veux m'occuper de moi. Attention, il est précisé des fruits à la gloire du Père. Amen. C'est très important les motivations qu'on a pour être transformé par Dieu. Quand on vient auprès de lui pour être transformé, est-ce que c'est parce qu'on a besoin de reconnaissance? Qu'on a besoin que les gens disent « Ah, lui, il est bien, il est... Oh là là, il est spirituel, oh, formidable !» C'est ça qu'on recherche? On veut rechercher la gloire du Père. Amen. Les fruits sont pour la gloire du Père. Nous, on doit s'effacer. Et jamais, jamais, si nous avons reçu le fruit d'en haut, jamais nous devons nous en glorifier en quoi que ce soit. C'est par pure grâce et c'est ne pas être amnésique de ce qu'on était au départ. Et il ne faut jamais oublier ce qu'on est au départ. Ce que je suis, de par mon éducation, de par ce que m'ont transmis mes parents, il n'y a pas que du mauvais, mais il y a beaucoup de mauvais parce que mes parents étaient des êtres humains et comme moi, j'étais un être humain et j'ai transmis aussi pas que des bonnes choses à mes enfants. Mais quand notre patrimoine génétique il vient d'en haut, c'est autre chose. Amen. Que le Seigneur soit béni. Puis la dernière chose, et ça va enchaîner sur la conclusion, un des sarments demeure et l'autre est jeté au feu. Cette affaire est sérieuse, mes frères et sœurs. Le fait de nous tenir auprès de Dieu, c'est une question de vie ou de mort. Ici-bas, dans notre vie spirituelle, parce qu'on peut être tout à fait vivant, en bonne santé, mais mort spirituellement, vous le comprenez. Mais ça concerne aussi l'éternité. Seront avec Dieu ceux qui étaient auprès de lui, pas ceux qui venaient à l'église. Pas ceux qui faisaient semblant d'être des bons chrétiens. Mais on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à être les vignerons. Hein. Vous pouvez penser que quelqu'un n'est pas proche de Dieu, alors qu'il l'est. Et vous pouvez penser que quelqu'un est proche de Dieu alors qu'il ne l'est pas. Donc, laissons le vigneron, lui, c'est tout. Et laissons-le faire. C'est une affaire sérieuse. Le fait de jeter les sarments au feu, ça représente le jugement dernier. Où les anges viendront faire la moisson et jetteront ce qui n'a pas été à la gloire de Dieu dans le feu éternel. La conclusion... elle va vous encourager, j'en suis sûr. Dieu est le vigneron. Comme il a suscité la vigne Israël, il suscite l'Église. Il la suscite au travers de son Fils, le cep. Et il suscite non seulement l'Église, mais chacun des disciples que nous sommes. Et j'aime mieux parler de ce deuxième point. Parce que quand on parle de l'Église, c'est impersonnel. Alors que la différence entre l'élection avant la venue de Jésus, qui concernait un peuple, aujourd'hui, elle concerne les individus, un par un, individuellement. Les individus individuellement, si vous n'avez pas compris, c'est... Dieu a planté le cep. Il est le vigneron, il a planté le cep. Il l'a planté pour toi, mon frère, ma sœur. Il a planté le cep.
le cep où il y a la sève, la vie, il l'a planté pour toi, pour que tu t'attaches à lui. Amen. Il y a eu un prix pour cela. Il y a eu un prix pour cela. Jésus est mort. Jésus a été crucifié. Il a porté mes péchés. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, et quand on le voit, quand on décrit ce qui se passait dans le temple ou le tabernacle, ce n'était pas possible de s'approcher de Dieu. Ce n'était pas possible d'être appelé le sarment qui fait partie du cep. Et aujourd'hui, c'est possible parce que Dieu a planté le cep. Amen. Jésus, le vrai cep, est venu pour nous donner la vie en nous nourrissant par la sève qui nous transmet. J'aimerais vous amener toujours dans l'évangile de Jean et vous inviter chez vous à lire toute la fin du chapitre 6. Vous pouvez lire le chapitre 6 en entier. Mais c'est un trésor, ce chapitre. Jean, je vous lis quelques extraits. Jean 6, 47, 48. « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. » Amen. Et un peu plus loin, regardez ce qu'il dit. « en vérité, je vous le dis. » Écoutez bien et soyez pas choqués. « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, on retrouve l'expression, et je demeure en lui. Amen. La dernière phrase parle d'elle-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. C'est lui, le cep qui nourrit les sarments. Les sarments, sans le cep, n'ont pas d'existence possible. Ils ne peuvent ni vivre, ni encore moins porter du fruit. Sa chair, c'est la parole. Sa chair, c'est la parole. Je suis le pain de vie. J'aimerais répéter une chose que je dis souvent ici. Quelqu'un qui ne mange pas de la nourriture pour son corps physique pendant plusieurs jours, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Au début, il est fatigué et au final, il meurt. Et nous nous persuadons que sans nous nourrir de la parole, nous pouvons vivre. C'est une folie. Et le siècle, le 21e siècle, est composé de chrétiens, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques qui ne lisent pas la parole. Ce qu'ont dénoncé, nous les évangéliques, concernant les catholiques, il y a quelques années en arrière, nous on lit la parole, nous machin, eux non. Nous avons la même chose maintenant, aujourd'hui. Les gens ne lisent pas la Bible. Ils se contentent voilà, d'une prédication le dimanche, se contentent du petit pain quotidien là sur Internet, la parole du jour. Et voilà, ils sont contents. Ils ont eu les petits pots qu'on donne aux bébés. Là. Mes frères et sœurs, c'est une question importante. Je ne m'adresse pas à ceux qui s'approchent du Seigneur juste en ce moment. Dieu va vous donner le temps. Mais je m'adresse à ceux qui connaissent le Seigneur depuis des années. Vous savez, on fait un petit jeu à la veillée du jour de l'an, avec des mots croisés. Et quand on fait ce jeu, on se rend compte que les gens ne connaissent pas du tout la parole. Ils ne la connaissent pas. Et c'est fou. Donc je veux vraiment vous interpeller. C'est une question de vie ou de mort. On n'est pas en train de parler d'une option. Ce serait bien que tu lises la Bible. Non, si tu ne lis pas la Bible, tu es mort. Et lire la Bible, il est parlé, celui qui mange. Il faut la manger, il faut s'en nourrir, il faut que ce soit une recherche. Oh, pasteur, je ne peux pas, je n'ai pas fait d'études, j'y comprends rien, etc. Et le Saint-Esprit. Il y a des grands prédicateurs qui ont fait zéro étude. Hein. Et moi, j'ai personnellement un ami. Il me donne des leçons théologiques, alors qu'au niveau études supérieures, je suis largement au-dessus de lui. Ça n'a rien à voir. Jean, on va plus loin. Non, c'est fini sur Jean, pardon. Je termine, on va prier. Le sang, c'est l'image dans la Bible, l'image de l'âme. L'âme de la personne, la vie qui est en lui. C'est une image forte. Donc quand on boit le sang, on boit la vie de Jésus. Il y a des chants qui disent « Son sang coule dans mes veines ». J'aime bien cette expression. « Son sang coule dans mes veines ». Amen. Qu'il en soit ainsi. Et je vais vous inviter au moment de Sainte-Seine, je vais demander aux personnes qui sont là pour la distribuer de s'approcher, en précisant, attention, hein, que ce qu'il y a ici, ce sont des symboles. Quand vous allez prendre le pain, vous n'allez pas manger le corps de Christ. Quand vous allez prendre le vin, vous n'allez pas boire le sang de Christ. Ce ne sont que des symboles. Mais les symboles sont là pour nous rappeler les choses. Et donc, entre autres, nous rappeler ce qu'on vient de lire dans Jean 6. Lorsque je vais prendre ce pain, je vais dire au Seigneur, je prends l'engagement de me nourrir de ta parole. Amen. Est-ce qu'on peut faire la Sainte-Seine sérieusement? Seigneur, je veux me nourrir de ta parole. Quand je vais prendre le jus de raisin, je vais le prendre, je dis, Seigneur, je veux que ta sève, ta vie coule en moi. Amen. Je vais accorder aucune importance aux éléments, attention, hein. Il n'y a rien de magique là-dedans. Vous pourriez le faire même juste en y pensant, hein, sans les manger, sans les prendre. C'est pas un problème. Mais je pense que ce moment, il est important. C'est pour ça que j'ai demandé à Nathanaël si on pouvait, hein, vous pouvez prêcher avant la Sainte-Seine, ça me paraissait important. Est-ce qu'on est d'accord de passer ce temps de Sainte-Seine dans ce sens-là maintenant? Les personnes ne sont toujours pas approchées. Est-ce qu'elles sont là? Oui, c'est bon. Vous pouvez venir. Pendant qu'elle s'approche, qu'elle prépare le repas, j'aimerais qu'on ait un temps de prière, s'il vous plaît. On va placer nos cœurs devant Dieu, on va prier. On va remettre ces instants au Seigneur. Cette parole qui a été donnée aussi dans nos cœurs, que le Seigneur vient, ne fasse pas de nous des auditeurs oublieux. Et je me parle à moi en premier. Et je veux tenir compte de ce que le Seigneur nous dit depuis plusieurs semaines maintenant. D'être au plus près de lui. Je pense que les temps de la fin sont proches. Je pense que ce sera difficile de plus en plus de vivre la foi chrétienne. Si on n'est pas hanté dans le Christ, on n'y arrivera pas. Sans lui, on ne pourra rien faire. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de venir maintenant par ton esprit, s'il te plaît. Toucher les cœurs. Je sais que tu as commencé déjà à le faire. Pendant que je prêchais, même si je parlais bien imparfaitement, Seigneur, toi, par ton esprit, Seigneur, je crois que tu peux saisir nos cœurs, le mien aussi. Seigneur, merci parce que tu as donné ta vie, afin que nous puissions bénéficier de cette sève, ce pain, ce sang qui coule sur nous, qui nous permet, Seigneur, d'avoir la vie, la véritable vie. Oh, à toi la gloire, Seigneur. Merci, mon Dieu. Sois béni Jésus-Christ, que vraiment on puisse se tenir devant Dieu maintenant. Amen. Amen.